Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur France Culture, une émission en deux temps pour susciter les débats d'idées et de sociétés relatifs aux grands enjeux de l'environnement et puis recueillir aussi les expériences de terrain à côté de chez nous ou au bout du monde. En cette rentrée 2016, alors que beaucoup d'entre nous ont pu entendre au cours de la période estivale « Nous ne donnons plus de sacs plastiques » ou bien « Profitez-en, ce sont les derniers avis aux collectionneurs », eh bien nous avons choisi de nous intéresser de plus près à cette pollution plastique. En un siècle, ce produit parfait et miraculeux est devenu la matière à bannir, polluante et possiblement contaminante pour l'homme. Depuis le 1er juillet 2016, donc inscrite dans la loi sur la transition énergétique, l'interdiction des sacs plastiques d'une épaisseur inférieure à 50 microns, donnés ou vendus en caisse, est entrée en vigueur en France. Et à la date du 1er janvier 2017, eh bien, il en sera de même. Des sacs plastiques d'emballage, de fruits et légumes, des protections qui, bien souvent, se retrouvent dans la nature et notamment dans les océans. C'est l'occasion aujourd'hui de faire un état des lieux de cette pollution insidieuse et d'aller voir du côté des océans où des milliards de morceaux de plastique s'accumulent, notamment dans 5 zones, 5 gires des tourbillons marins sous haute surveillance. Alors, quel risque pour la planète, pour la biodiversité et l'écosystème, mais aussi pour l'homme, l'homme en bout de chaîne alimentaire, et quelle solution face aux dangers plastiques ? Avec nous pour en parler aujourd'hui, François Galgani, docteur S sciences, océanographe, biologiste, responsable du laboratoire Ifremer Environnement Ressources pour la Corse, et Johnny Gasperi, chimiste, spécialiste des microplastiques. Il est maître de conférence au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains à la faculté de sciences et technologies de l'université Paris-Est Créteil. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, dans les Échos de la Terre, nous nous intéresserons aux journées du patrimoine qui auront lieu le week-end prochain. Et vous verrez que des associations se mobilisent pour faire de cet événement des journées du patrimoine environnemental. Nous serons donc avec Cécile Ostria, elle est directrice générale de la Fondation Hulot pour la Nature et l'Homme. Et puis nous ferons aussi un petit tour en Gironde, au Verdon-sur-Mer, où un marais a besoin de votre aide. Patrick Lapouillade, directeur de l'association Curuma, nous en dira plus tout à l'heure. Mais tout de suite, le plastique décrété ennemi de la planète.
Sur le marché de Vanves, en banlieue parisienne, le sac plastique est loin d'avoir disparu, par exemple chez le poissonnier.
On emballe chaque produit est envoyé après dans un autre sac, un grand sac regroupé, ça va très très vite. Par personne, c'est 2, 3, 4, 5 sacs.
Vous passez combien de sacs par marché ?
En moyenne de 1000 à 2500.
Nous, on a un produit qui est tout le temps humide, c'est du poisson. Donc forcément, si on ne met pas de sac plastique, les gens vont en avoir plein les poches, quoi. Je leur mets dans quoi leur moule qui vont... Les huîtres, hein ? Et garde le jus, comment on fait ?
Plus facile de s'en passer chez le marchand de fruits et légumes.
On faisait comment dans le temps ? On venait avec son petit sac, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des sacs plastiques ?
Madame, vous êtes...
Je suis contre. Alors là, carrément. Il faut arrêter de distribuer des sacs plastiques. Il y en a partout, donc il faut arrêter d'en distribuer impérativement. Regardez, j'ai pas un seul sac plastique. Il y a des oranges, des bananes, des melons et un sac en papier dans lequel il y a du raisin.
C'était le 11 octobre 2014, un reportage tourné sur le marché de Vanves en banlieue parisienne par Sandy Dauphin. Bonjour, Johnny Gasperi.
Bonjour.
Bonjour François Galgani.
Bonjour.
Je précise que vous êtes en duplex de France Bleu Bastia. Merci d'être avec nous. Alors ça, comme je le rappelais, ce sujet, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Cet été, une décision a été prise, en tout cas en France, première étape d'interdiction des sacs plastiques, les sacs à usage unique. Donc ce plastique, formidable matériau, plein de promesses pendant un siècle, puisqu'il a commencé à vivre son essor fin du 19e siècle, et puis il a été dénoncé, notamment depuis les années 70. Alors, pour vous, est-ce que ces mesures prises en France, là, le 1er juillet 2016 notamment, et à venir au 1er janvier 2017, est-ce que c'est déjà une victoire, François Galgani ?
Absolument. Je pense que c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire pour résoudre des problèmes d'environnement. Alors, évidemment, le plastique, il a un aspect positif. Tout n'est pas mal dans le plastique. mais les excès ont conduit à une abondance dans le milieu naturel qui fait qu'il y a tout un ensemble de problèmes générés. Et dans les mesures qui sont nécessaires, l'interdiction des sacs plastiques est une des plus importantes, je pense.
Et en sachant, je le précise, hein, que dans d'autres endroits de la Terre, dans d'autres pays ou d'autres lieux, on a cette interdiction des sacs plastiques à usage unique qui est intervenue bien en amont. Par exemple, j'ai relevé qu'à Mayotte, c'était en 2006. Hein.
Vous avez d'autres pays, en Méditerranée, par exemple, en Italie ou le Maroc, où il y a des initiatives qui ont été prises dans ce sens. Donc je pense que ça devrait se généraliser. Après, il faut pas mettre de côté, si vous voulez, tous les emballages. Il y en a qui sont utiles, et forcément. Et simplement, c'est une question de gestion, je pense, qu'optimiser. Par contre, tous les produits les plus dangereux, c'est-à-dire les plus fins, par exemple, qui se dégradent très, très, très lentement, je pense que c'était une très, très bonne décision.
Johnny Gasperi, alors ce plastique, on peut rappeler peut-être de quoi il se compose?
C'est des polymères hein, qui sont produits à base essentiellement de pétrole. Mmh. Aujourd'hui, on a entre 6 et 10% de la production pétrolière qui est destinée à la production de plastique, donc à l'échelle mondiale. Et juste pour vous donner un chiffre un petit peu symbolique, aujourd'hui, on produit 300 millions de tonnes de plastique. Donc ça, c'est un chiffre de 2014 à l'échelle de la planète. Alors, c'est intéressant de comparer ce chiffre un petit peu aux tonnes de plastique qui sont dans les océans ou dans les rivières. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 8 millions de tonnes par an de plastique qui rentrent dans les océans. Et donc, vous voyez, par rapport à cette masse de plastique qui a été produite, c'est un petit pourcentage, mais qui, en quantité, est importante.
Quand vous parlez des 300 millions de tonnes, c'est tout plastique confondu, c'est-à-dire aussi les plastiques rigides, pas seulement les sacs plastiques, hein, c'est ça?
Bien sûr.
C'est toute la production à l'échelle mondiale.
Voilà, les plastiques à la fois pour le textile, pour l'habitat, le PVC, etc., etc.
François Galgani, ce qui était intéressant jusque-là, c'était aussi le faible coût du plastique, hein, puisque et ça a généré forcément une utilisation massive et donc un abus. On parle de 8 milliards de sacs plastiques jetés dans la nature en Europe chaque année. On trouve beaucoup de chiffres, hein, ça et là, au fil des articles. On a un petit peu de mal à voir clair. Est-ce que vous confirmez ces chiffres astronomiques?
Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le plastique, c'est bien parce que c'est léger et résistant, et puis c'est pas bien parce que c'est léger et résistant. Donc, quand on arrive à une production telle, on était quand même à 30 milliards dans les années 2000 de sacs distribués en France chaque année, avec une grande partie qui pouvait aller à milieu naturel. Forcément, on est arrivé, si vous voulez, à un niveau qui était excessif, et c'est la raison pour laquelle les mesures étaient importantes. Quand on regarde maintenant les bilans qui sont faits, on arrive à peu près à 5 000 milliards de particules, parce qu'il faut savoir que ces sacs, en fait, ils peuvent se dégrader en microparticules, et donc on est actuellement à 5 000 milliards de particules qui flottent à la surface des océans, avec tout un ensemble de conséquences possibles dont on pourra parler tout à l'heure.
Alors, on n'a pas parlé de la durée de vie. Un sac plastique, on parle de 400 à 450 ans pour les voir se dégrader dans la nature.
Pour les gros plastiques épais, je pense que c'est du domaine du possible. Le problème, c'est qu'on n'a pas de recul. Ça fait quelques dizaines d'années simplement que le plastique s'est généralisé. Donc, on n'a pas l'expérience de la persistance en milieu naturel et en mer. Mais dans certaines conditions, par exemple très profond, on a très peu d'oxygène et pas de lumière du tout, qui sont les facteurs normalement qui favorisent la dégradation. On se trouve dans des conditions où, vraisemblablement, ils vont rester très très longtemps. Oui.
Et alors, pour être vraiment complet par rapport à ce tour d'horizon un petit peu en matière de plastique, il faut préciser hein, que le plastique que l'on retrouve dans le monde entier et donc aussi dans les océans provient soit de la dégradation de fragments de plastique, soit elle existe aussi sous une forme microscopique que l'on retrouve dans les produits de beauté comme les gommages et les exfoliants.
Effectivement, il y a même des petites particules. Vous savez, pour donner une forme à un plastique, il faut le chauffer. Et on peut pas transporter du plastique, des gros morceaux de plastique qui feraient plusieurs mètres cubes et les chauffer parce que ça demanderait beaucoup trop d'énergie. Donc pour remplacer ces gros blocs, on transporte le plastique sous forme de petits granules. Et ces petits granules, ils ont tout un ensemble d'applications directes, donc par exemple dans les cosmétiques comme abrasifs, mais également pour être chauffé, donner une forme, ce qui coûte beaucoup moins d'énergie. Le problème, c'est que les pratiques ne sont pas forcément rationnelles et donc ils ont des pertes pendant le transport, si vous voulez, le nettoyage et autres. Et donc il y a directement des produits primaires qui arrivent directement dans le milieu naturel, donc dans les rivières d'abord et puis après en mer.
Johnny Gasperi.
Ce qui me semble important de préciser, c'est que quand on parle des plastiques dans l'environnement, c'est qu'il y a tout un continuum de taille qu'il faut considérer. C'est qu'aujourd'hui, il y a des macroplastiques qui sont présents, c'est des macro-déchets de grande taille, et que ces déchets vont pouvoir se fragmenter en petite taille. Quand on parle de microplastiques, la définition dans notre communauté, c'est des particules qui sont inférieures à 5 mm. Par contre, on peut aller très bas dans la taille des microplastiques, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 10 microns, même jusqu'à 1 micron. Et voire, on parle de plus en plus maintenant de nanoplastique également.
D'où ce terme que j'ai utilisé au début de l'émission, c'est une pollution insidieuse. François Galgani, vous parliez des milliards de morceaux de plastique qu'on retrouve en surface des océans, mais on ne retrouve que 1% de ces plastiques en mer. Alors, où est le reste? Et là est le danger peut-être, et un danger sur lequel les scientifiques se penchent depuis quelques années.
Alors en fait, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils sont. On a des hypothèses, on pense qu'ils peuvent descendre sur le fond des océans, parfois très loin, parfois très profond, mais on n'a pas de preuves formelles. On a eu des travaux au-delà du cercle polaire arctique, on a trouvé des quantités vraiment significatives de gros déchets. On commence à mesurer des microplastiques également dans les grandes profondeurs, partout dans l'océan mondial, évidemment moins en Antarctique ou en Arctique que dans les zones côtières et urbanisées. Mais malgré tout, le bilan n'est pas encore fait pour ce qui se trouve dans le fond, et on est probablement à des quantités qui sont très au-delà de ce qu'on a trouvé en surface.
Quand vous dites « on », c'est qui et depuis quand ?
Dans l'histoire, je pense que c'est important de noter, si vous prenez le chapitre « La mer des sargasses » de Jules Verne en 1869, il décrit l'accumulation des déchets, à l'époque ce n'était pas du plastique, mais il décrit l'accumulation au niveau de cette zone de l'océan Atlantique qu'on appelle la mer des sargasses. Vous savez, sargasse, ça vient de sargasso, qui en portugais veut dire algue brune, c'est une algue brune, parce que ce sont des algues flottantes et que les courants les amènent dans cet endroit-là. C'est de là que vient l'origine du mot, si vous voulez. Et en fait, les plastiques, depuis quelques dizaines d'années, ont le même comportement que les petites tortues, que le plancton, certaines espèces, ou les anguilles, ou bien les sargasses, et vont s'accumuler dans cette zone-là. Et donc ça, la première description, ça remonte à très longtemps. Par contre, le fait que le plastique s'y accumule, avec des densités plus importantes, c'est beaucoup plus récent, et il faut attendre les années 70-80 pour avoir les premières descriptions. Après, donc, il y a des personnes qui ont étudié l'hydrodynamique, qui ont précisé à la fois les quantités, la circulation, le devenir, mais en fait, on est loin de savoir exactement ce qui se passe.
Donc finalement, à partir des années 70, c'est ces années au cours desquelles des alerteurs ont commencé aussi à agir, hein, Johnny Gasperi.
Oui, en fait, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a différentes méthodes qui sont mises en place, à la fois pour quantifier les flux de plastique qui rentrent, les flux de plastique qui sont présents dans les océans. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est de relier tout ça et de mettre en cohérence tout ça.
Oui, parce que ce qui arrive dans les océans, Johnny Gasperi, ça provient essentiellement de la terre, pas forcément justement du tourisme côtier, de la pêche ou de l'industrie maritime. C'est ce qui arrive en amont et c'est sur ce terrain-là que vous faites vos expériences et vos recherches.
Exactement, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse à la production de l'homme en milieu urbain, en milieu continental, et son transfert de ces plastiques vers les océans.
Comment vous travaillez ?
Alors tout dépend à quoi on s'intéresse. Nous, dans notre approche de travail, on distingue vraiment le macroplastique des déchets macroscopiques, du microplastique. Pour le macroplastique, par exemple, on peut utiliser des barrages flottants. Avec l'aide de ces barrages flottants, on peut estimer des quantités de plastique exportées par la Seine, par exemple. Nos derniers travaux ont montré qu'il y avait entre 20 et 50 tonnes de plastique qui sont déversées au niveau de l'Île-de-France dans la Seine et qu'on va pouvoir capter grâce à des barrages flottants.
Et François Galgani, je vous propose, pour bien aussi prendre la mesure des dangers avérés et à venir aussi de ces plastiques qui flottent en surface au niveau des océans ou qui se trouvent dans les fonds, écoutons un extrait d'un documentaire qui passera samedi prochain, le 17 septembre, sur Arte à 22h20. Son titre, Océan, le mystère plastique, un documentaire de Vincent Perazio.
Il y a les petits microfilets, c'est les petits poissons lanternes qui sont là. Il y a des salpes.
Et puis il y a du plastique.
Et les plastiques, voilà, les plastiques. Il y a certains endroits où il y a un plastique pour deux planctons. Je dis que c'est quand même pas mal à d'autres endroits où il y en a moins. Mais imaginez-vous les petites baleines qui arrivent et qui trouvent que des plastiques à manger. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'au moment qu'il y a tant de plastique en mer, mais il n'y aura plus rien à manger pour les filtreurs, pour les poissons, pour les baleines.
Le problème est, je définis ça pour mes étudiants de la façon suivante. C'est pas la peine de jeter les sacs de plastique. Vous les assaisonnez bien, vous les mangez directement. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir dans votre assiette, sous une forme ou sous une autre.
Alors, on a eu droit, François Galgani, à une recette proposée par Gabriel Gorki, que l'on entendait à l'instant dans le documentaire. Il était accompagné de Maria Luisa Pedrotti, tous deux du laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, et qui étudient donc ce plastique en Méditerranée. Est-ce que véritablement, ce danger-là qui est pointé du doigt, c'est un danger sur lequel les scientifiques ont quelques raisons de s'alarmer?
Si vous voulez, je pense que l'image est très parlante. Par contre, elle est assez loin de la réalité. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que pratiquement toutes les espèces ingèrent des déchets. On en est actuellement, je crois, à 660 ou 670 qui ont été décrites pour ingérer des déchets. Mais, selon leur taille, évidemment, un copépode, du plancton, une espèce du plancton va ingérer des tout petites particules quand une tortue va ingérer des gros sacs, par exemple, qu'elle prend pour des méduses. Mais en fait, si vous voulez, sauf pour les nanoparticules qu'on ne connaît pas, en fait, on ne sait pas, qui pourraient rentrer dans les tissus, on sait maintenant qu'il y a un transit intestinal, c'est-à-dire que les organismes qui ingèrent ces plastiques, en fait, ne vont pas les garder. Donc, dans le plancton, ils vont y rester pendant quelques heures. Pour des moules, qui sont des filtreurs ou des huîtres, par exemple, qui filtrent beaucoup d'eau et qui sont susceptibles d'en ingérer beaucoup, ça va être quelques jours. Pour une tortue, au bout de 2-3 semaines, elle va excréter. D'ailleurs, dans les centres de soins, ils récupèrent, lorsqu'ils récupèrent des tortues malades, ils voient l'excrétion, justement, de ces déchets au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Et donc, ça veut dire que s'il y a une excrétion, les organismes ne les gardent pas, sauf dans le cas d'occlusion, bien évidemment, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de transfert, si vous voulez, dans la chaîne alimentaire. Alors, il y a des chaînes courtes, par exemple les baleines, ce qu'expliquait Maria Luisa. Effectivement, si une baleine filtre énormément de mètres cubes d'eau à chaque inhalation, lorsqu'elle filtre le plancton pour se nourrir, elle aura forcément des plastiques. C'est des grandes quantités, mais normalement, elle ne va pas les garder non plus. Donc, le risque, si vous voulez, il est possible, mais quand même, on n'est pas dans une configuration où il y a lieu de s'inquiéter pour l'instant.
Johnny Gasperi.
Je ne sais pas, François, si tu as entendu parler de certains travaux très récents là, qui sont sortis où justement la translocation de ces microplastiques a été démontrée. Donc, trois espèces, je crois, marines, dont la morue et une autre, où il y avait vraiment des translocations et la présence de plastique.
Alors,
dans
si
le
vous
foie.
Voulez, dans le cas de toutes petites particules, on peut imaginer ça, et même ça peut être démontré. Ouais. Je ne suis pas contre l'idée, si vous voulez, mais sur les microplastiques, par exemple, on comprend très très mal pour les spécialistes pourquoi certaines espèces ingéreraient par exemple des particules de plastique et pas d'autres particules comme des grains de sédiments. Vous voyez, les concombres de mer, ils avalent du sédiment, il pourrait y avoir des particules de plastique, on comprend mal pourquoi simplement les particules de plastique pourraient passer par exemple. Voilà, donc il y a tout un ensemble de questions, c'est un sujet d'actualité avec des enjeux qui sont considérables, mais pour l'instant, à part dans le cas de toutes petites particules qui effectivement pourraient être, on appelle ça une translocation, transférées dans les organes et donc être transférée, la question reste posée. D'une manière générale, pour les différentes espèces, on estime que, comment dire, le risque est quand même minime, quoi.
Et en même temps, François Galgani, l'Agence de santé américaine a déjà commandé une étude à ce sujet, hein, je crois. C'est-à-dire voir de quelle façon est-ce que ces microplastiques ingérés, donc qui reviendraient dans notre propre alimentation, seraient à l'origine de maladies, de cancers, etc.
L'ANSES aussi en France, une agence pour la sécurité alimentaire et environnementale, a également des travaux sur le sujet. Et donc, on est typiquement dans des questions d'actualité. Pour l'instant, on n'a pas de preuves, si vous voulez, formelles et flagrantes pour les plastiques les plus classiques, c'est-à-dire d'une certaine taille, si vous voulez, d'un transfert, quoi.
Les études sont en cours, en tout cas. C'est ce que vous
Absolument.
Dites. Ça va prendre
Tout
du temps
fait. Il faudra quelques années avant de pouvoir conclure définitivement. Il va y avoir des arguments pour, il va y avoir des arguments contre. Après, il faut savoir, par exemple, que lorsqu'on mange un poisson, dans la plupart des cas, à part si ce sont des petits pélagiques comme les sardines ou éventuellement les anchois, on les vide quand même. Et donc, la présence de plastique dans l'estomac, normalement, on a peu de chances de les ingérer. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de questions qui sont autour. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on n'est pas dans une configuration, si vous voulez, où il y a un risque énorme de manger beaucoup de plastique. Je pense sincèrement qu'on a plus de risques d'avoir un enfant qui, en mâchouillant, comment dire, des objets en plastique, va en avaler des morceaux, plutôt que de les retrouver dans l'alimentation.
Johnny Gasperi.
Je rejoins tout à fait ce que dit François. Ce qui est important aujourd'hui, c'est bien de cibler la taille. Jusqu'à quelle taille on doit descendre quand on s'intéresse au plastique. Par rapport à ce transfert dans la chaîne alimentaire, aujourd'hui, il y a énormément de questions, énormément de zones d'ombre, et on continue à y travailler.
Ce que l'on sait par contre, c'est quand même l'interaction des microparticules de plastique avec les polluants organiques. Hein. Moi, si j'ai bien lu les études, on sait qu'ils fixent ces polluants comme le DDT, la dioxine, les métaux lourds. François Galgani.
Effectivement, ce sont des vecteurs et ils sont susceptibles de transporter ces polluants. Et le problème est particulièrement marqué pour les espèces qui concentrent les microplastiques. Il y a par exemple des oiseaux en mer du Nord qui ont une poche dans laquelle ils gardent les microplastiques. Et dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs dizaines d'objets, si vous voulez. Et comme sur chaque objet, il y aurait des polluants qui seraient fixés, là, il y a un risque de transfert, et ça a été montré, dans les tissus, dans la circulation sanguine, de polluants, donc DDT, PCB, hydrocarbures ou autres contaminants. Ceci dit, il faut savoir que s'il y a des contaminants sur du plastique, c'est surtout parce qu'ils sont dans l'eau. Donc ça veut dire que la pollution est plus un problème de pollution de l'eau, avec le plastique qui joue un rôle de transfert vers les espèces, certaines espèces en particulier, plutôt que le plastique qui c'est lui-même une source de polluants. Sauf dans le cas de certains composants du plastique qu'on ne trouve pas forcément dans l'eau. Alors vous connaissez, vous avez entendu parler du bisphénol, des phtalates qui sont des additifs ou des choses comme ça. Mais sincèrement, actuellement, on arrive à les détecter, mais on n'est pas encore à des seuils de toxicité ni pour les organismes marins ni pour l'homme. Le problème serait plus posé pour les plastiques alimentaires. Vous savez, il y a eu une polémique il y a quelques années sur les biberons et d'ailleurs, il y a eu des décisions qui ont été prises en ce sens. Dans le cas du milieu naturel, je peux vous affirmer qu'il y a des gens qui sont capables de détecter justement ces composants du plastique, mais on n'est pas encore à des seuils qui sont... Par contre, si on continue à utiliser le plastique et à le jeter dans le milieu naturel, alors dans quelques années, effectivement, le problème se posera.
Mais alors concernant justement, au-delà du plastique, hein, ces zones polluées, est-ce que d'ores et déjà, on a une sorte de carte de zone pour lesquelles, par exemple, le consommateur devrait être méfiant, c'est-à-dire ne pas acheter de poissons ou de crustacés provenant de telle ou telle zone géographique?
Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est l'un des sujets d'actualité de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'on commence maintenant, qu'on a des cartes de répartition de certaines espèces et qu'on commence à avoir des bonnes cartes de répartition de microplastiques ou de plastiques, à faire des cartes, si vous voulez, qui croisent ces données de manière à avoir des cartes de risque de rencontre entre les microplastiques et certaines espèces de poissons ou de tortues, ou les tortues, par exemple. Et donc, de localiser les zones dans lesquelles il y aurait effectivement un risque d'ingestion plus fort ou d'autres. Alors, ce sont des travaux qui démarrent. Il n'y a pas de conclusions qui sont tirées. Ça peut avoir une conséquence également pour la délimitation des zones à protéger. Si vous voulez faire par exemple une aire marine, une réserve au large, eh bien c'est intéressant de savoir que dans certaines zones, certaines espèces seront plus affectées par les plastiques que dans d'autres zones. Et donc ça vaut le coup de regarder si ce n'est pas ces zones-là qu'il faut protéger. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'implications à ce type d'approche. Et effectivement, ce sont des questions sur lesquelles on devrait pouvoir arriver à donner des éléments de réponse dans quelques années.
François Galgani, je reviens juste sur les chiffres. On parle de 100 000 mammifères marins et tortues et 1 million d'oiseaux qui meurent chaque année par asphyxie ou occlusion intestinale. Ça donne quand même une idée de ce danger potentiel pour les écosystèmes, pour le vivant.
Si vous voulez, c'est avéré. C'est un problème surtout pour les grosses espèces. Pour les petites, il y a pas de risque d'étranglement, a priori. Il pourrait y avoir des cas, mais a priori, c'est moins marqué. Mais vous savez, il y a d'autres effets qui sont peut-être plus conséquents. Quand on sait qu'il y a 5000 milliards de microparticules qui flottent à la surface des océans, en fait, chacune de ces microparticules peut être un autobus qui transporterait tout un ensemble de bactéries ou bien d'unicellulaires ou bien parfois même des pluricellulaires, d'espèces, dis donc, et qui pourrait voyager comme ça sur des milliers de kilomètres. Vous savez, on a parlé du problème des ballasts qui étaient susceptibles de transporter des espèces d'un port à l'autre, sauf qu'un bateau qui va d'un port à l'autre, il va en ligne droite et il va à une vitesse suffisamment forte pour que les espèces ne se fixent pas dessus pendant le transport. Et donc le risque vient des eaux qui seraient rejetées en arrivant. Mais dans le cas du plastique, c'est des milliards de microparticules qui vont tout doucement, qui vont dans toutes les directions et qui peuvent se retrouver à des milliers de kilomètres, si vous voulez, ça prendra du temps. Et donc là, le vecteur et le transport de ces espèces est assez important. Le meilleur exemple, c'est après le tsunami au Japon en 2011, où 120 espèces nouvelles sont arrivées sur les côtes canadiennes au bout de quelques mois. Et vous voyez qu'il y a un risque qui est assez important. Alors, c'est pas bien connu, si vous voulez, parce qu'on commence simplement à s'attacher à ce problème-là, mais il y a un risque important, si vous voulez, des modifications des équilibres des écosystèmes, ou des assemblages, que les spécialistes appellent les assemblages. Et donc là, ce sont des questions qui... très très importante, sur laquelle on n'a quasiment pas d'éléments de réponse.
Et là encore, François Galgani, des chercheurs travaillent. Je vous propose de retrouver justement Maria Luisa Pedrotti du laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Bien évidemment, c'est un extrait de ce documentaire « Océan, le mystère plastique », un documentaire de Vincent Perradio qui sera diffusé samedi 17 sur Arte.
C'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre d'algues attachées à ces plastiques. Toutes les études sont importantes, l'étude sur la toxicité, sur l'ingestion des plastiques, mais l'idée d'imaginer que 250 milliards des nouveaux substrats se baladent en Méditerranée et qu'offrent ce pouvoir de dispersion des espèces, moi je pense que c'est quelque chose de très alarmant.
Maria Luisa Pedrotti remarque ainsi que 40% de ces échantillons de plastique sont colonisés par des algues ou des crustacés. Les microplastiques, un vecteur majeur de la dispersion des espèces, il y a des raisons de le penser.
Et pour moi, c'est une bombe à retardement.
Johnny Gasperi, une réaction peut-être sur ces évolutions, cette mise en danger des écosystèmes, ou en tout cas ces possibles transformations du fait de ce formidable, finalement, transporteur de micro-organismes que constituent ces microplastiques.
Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est quand on parle de ces chiffres, c'est aussi avoir une idée de quoi on parle, de quelle taille de débris plastique on parle. Parce que plus on va descendre dans la taille, plus ce chiffre va augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend une certaine définition de taille, par exemple 300 microns, et on est à plus de 3 milliards. Si on descend à 200 ou 100 microns, on va arriver à 5 milliards, 10 milliards. Donc, il y a cette limite-là qu'il faut savoir par rapport à ce chiffre, un petit peu le faire...
Oui, un chiffre impressionnant, mais il faut le remettre dans son contexte, en tout cas en perspective, voilà, c'est ce que vous dites. À ce stade de l'émission, François Galgani, Johnny Gasperi, on vous a sollicité pour voir un petit peu, vous, chercheurs qui travaillez sur ces terrains-là, quelles propositions musicales vous pouviez nous faire. Alors nous avons opté pour une des suggestions de Johnny Gasperi, et en sachant que toutes les suggestions seront sur le site de l'émission, donc sur France Culture, et nous avons choisi donc Archive, Johnny Gasperi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix ?
Je trouve que c'est un morceau qui est plein de puissance. Selon moi, il exprime une certaine optimisme, une puissance, un dynamisme et un élan. Quelque chose que j'aime bien, qui porte nos actions de recherche, qui nous pousse vers l'avant.
Face à ces enjeux environnementaux pour tout le monde.
Le vent. Was to walk away. From you, my love. Could I laugh again? If I walk away from you. Could I laugh again? Again, am I still in your head? You used to light me up. You shut me down.
Et c'est la suite de notre émission sur France Culture, sur ce choix musical que l'on doit à Johnny Gasperi. Archive est le titre de la chanson Again. Et notre thème, justement, aujourd'hui, c'est pas... Enfin, c'est Again, ça peut être Again, hein, mais c'est consacré aux océans de plastique. Cette pollution insidieuse, scrutée par les chercheurs et dont on étudie les risques pour la planète, pour les écosystèmes et in fine pour l'homme. Avec nous pour en parler, François Galgani, docteur en sciences, océanographe, biologiste, responsable du laboratoire IFREMER Environnement Ressources pour la Corse, et Johnny Gasperi, chimiste, spécialiste des microplastiques. Il est maître de conférences au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains à la faculté de sciences et technologies de l'Université Paris-Est, Créteil. Johnny Gasperi, vous vouliez revenir sur cette notion de polluant en expliquant que polluant et plastique, il fallait quand même être un tout petit peu plus précis.
Par rapport à ce que François a dit, c'est vrai qu'il faut relativiser la relation polluant-microplastique. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend une eau de rivière, on va retrouver par exemple 1000 fois moins de plastique que de particules minérales qui sont là, présentes naturellement dans cette eau. Alors, il faut avoir des interactions fortes entre les polluants et les plastiques, beaucoup de polluants qui sont présents dans l'eau vont venir se fixer sur les particules minérales. Donc d'un côté, on a des interactions fortes polluants-plastiques, mais il y a peu de plastique. Et de l'autre côté, on a des interactions qui sont peut-être un tout petit peu moins fortes, mais avec énormément de particules. Et donc, l'un dans l'autre, quand on pèse tout ça, on peut se rendre compte que peut-être la part de polluants fixés sur les plastiques sera plus faible que la part de polluants fixés sur les particules.
François Galgani, cette pollution en microplastique, elle est étudiée dans le monde entier. Elle a été dénoncée en milieu marin très tôt, hein, depuis les années 70, par des lanceurs d'alerte. Concrètement, est-ce que ces lanceurs d'alerte sont à vos côtés aussi, sur le terrain, quand vous faites des recherches? Est-ce que vous travaillez main dans la main?
Ce qui est assez particulier sur ce sujet-là, c'est que les associations ont joué un rôle très important. D'abord, elles ont collecté sur les plages, par exemple, mais également en mer, en surface, ça se fait de plus en plus. Elles ont collecté des données aussi sur les traversées. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de navigateurs, y compris parmi les plus fameux. Je veux dire, Tara, par exemple, a des expéditions sur les microplastiques. Philippe Poupon a fait des comptages pour nous. Et donc, ils ont participé. Et puis, ils sont très présents également sur les mesures au niveau des gestionnaires, ce qu'on appelle les policy makers, c'est-à-dire les politiques, quoi, en fait. Et participent aux décisions et poussent même dans ce sens-là. Donc, elles ont un rôle très, très, très important des associations. Et donc, les scientifiques, si vous voulez, ont une approche qui est beaucoup plus rigoureuse, apportent des données qui sont peut-être parfois plus solvables, mais je peux vous garantir, si vous voulez, que l'information qui vient des associations est essentielle.
Donc, on pense notamment à l'association Surfrider.
Absolument. Donc, c'était une des premières à travailler sur le sujet. Vous savez, pendant très longtemps, la communauté était très, très réduite. Il y avait quelques scientifiques, simplement, qui étaient spécialisés sur des questions très particulières. Et puis, petit à petit, donc, il y a eu une directive, notamment européenne, en 2008, qui a généré énormément de besoins, et donc de travail scientifique, et donc de mesures de réduction et autres. Et donc, on est dans une dynamique, si vous voulez, où ça, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte maintenant, alors que ça n'était pas au départ. Et les associations et les lanceurs d'alerte ont joué un rôle important. Par exemple, le capitaine Moore qui a alerté sur les continents de plastique. Alors, c'est une image. C'est complètement faux, si vous voulez. C'est simplement des densités qui sont plus fortes dans les zones océaniques qu'elles le sont ailleurs. Mais dans la réalité, on trouve beaucoup plus de microplastiques dans les zones côtières. Mais ça a eu le mérite, si vous voulez, d'informer les gens, quoi.
Et oui, Charles Moore, hein, en 97,
absolument,
je crois, est un des premiers à parler d'un continent plastique. Et puis ensuite, il y a aussi Patrick Dixon, hein, avec son fameux 7e continent. Mais en même temps, vous nous dites, finalement, on parle souvent de ces fameux 5 GIR, les 5 zones de courant, mais il y a d'autres lieux, hein, comme le golfe du Bengale, la Méditerranée, qui sont touchés,
absolument,
par cette pollution. Et on les oublie un peu, souvent, dans les descriptions. Hein, c'est ça.
Alors, si vous voulez, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a une notion qui va avec l'étude du plastique dans les océans. Il y a une notion d'aventure humaine, il y a une notion d'expédition qui est assez importante, et donc il y a cette partie-là et fait partie, si vous voulez, de l'information. Donc, vous savez, il y a Boyan Slate, là, le jeune néerlandais.
Hollandais, de 21 ans.
Oui. Il y a eu des expéditions pendant de nombreuses années. Et donc, il y a ce côté, si vous voulez, aventure humaine. Et c'est vrai que ça fait partie de l'actualité. On est dans le domaine de l'environnement, on est dans le domaine de la mer, des grandes traversées océaniques et autres. Mais la partie, si vous voulez, la plus environnementale au sens professionnel du terme, naturellement, si vous voulez, on s'occupe de régions qui sont beaucoup plus affectées, comme la Méditerranée, par exemple, ou bien les grands estuaires. Voilà.
On peut préciser que ce jeune homme de 21 ans, Boyan Slate, a été lauréat du prix champion de la Terre décerné par le programme des Nations Unies pour l'environnement et qu'il a imaginé un prototype de flotteur et de filet pour constituer une sorte d'immense barrière et pouvoir ramasser à terme les millions de tonnes de déchets dans les océans. C'est vrai que ça part d'une très belle idée et belle intention, mais on se dit, est-ce que c'est gérable à terme, François Galgani?
Je pense pas, non. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes, à savoir que opérer une grande structure comme ça à des milliers de kilomètres ou des milliers de milles, ça veut dire s'il y a un problème technique, il faut absolument aller sur place pour le réparer. Ça veut dire que s'il filtre les microplastiques, il peut filtrer des espèces du plancton, des petites tortues et autres, et donc il y a un risque d'altérer au passage la faune. Mmh. Et puis, pourquoi aller au milieu des océans alors que la plupart des plastiques sont à la côte, quoi.
Alors justement, quelles sont les solutions selon vous? Bon, on a vu que la France cet été avait fait parler d'elle par rapport à cette interdiction de sacs plastiques, hein, même si c'est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays, mais c'est toujours bien quand ça se met en place, forcément. Donc, quelle est la place, François Galgani, de la France d'ailleurs dans cette politique de sensibilisation et d'action? Et parmi les solutions dont on parle souvent, comme collecter, recycler, où en est-on? Quelles sont peut-être les solutions auxquelles on ne pense pas et qu'il faudrait mettre en place?
Prévenir l'interdiction des sacs plastiques, par exemple, c'est une des meilleures approches, si vous voulez. Après, le recyclage, qui est soutenu par pratiquement toute la communauté, que ce soit l'industrie, que ce soit les politiques, que ce soit les scientifiques, évidemment, c'est intéressant parce qu'il y a un gisement, d'énergie, et donc ça permet d'envisager des produits. Il y a même des entreprises maintenant qui vivent avec ça, et donc il faut absolument l'encourager. Alors, il y a des problèmes, on recycle facilement les bouteilles de plastique parce que ce sont des matériaux qui sont homogènes. Toutes les bouteilles plastiques sont faites de la même manière, c'est du polyéthylène teraphtalates, alors que recycler les plastiques, c'est plus compliqué parce qu'il y a différents types de polymères. Et en plus, pour certains plastiques, il y a plusieurs couches de polymères et donc on n'arrive pas, si vous voulez, à recycler l'ensemble. Il faut séparer d'abord et ça, c'est un petit peu plus cher. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est une approche pour la réduction qui a un potentiel très, très, très important. Après, il y a donc, au niveau des rivières, on a parlé tout à l'heure des barrages, la prévention, donc peut-être que Johnny pourra en parler plus facilement. Vous avez également l'éducation qui est importante, mais là, c'est de longue haleine, si vous voulez, ça prendra des années pour changer les comportements, parce que c'est facile de dire, mais changer les comportements des gens, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a des solutions qui sont locales. Par exemple, dans certaines zones de pêche, il y a beaucoup de filets sur les fonds, donc la prévention des pertes, en localisant, pouvant récupérer les filets en mer, ou bien simplement aller les chercher, c'est intéressant. Vous avez également, dans le cas du tourisme, l'interdiction de fumer. Vous savez qu'en Méditerranée, il y a certaines plages où on arrive à avoir 40% des déchets qui sont des mégots de cigarettes. Donc l'interdiction de fumer, par exemple, c'est assez simple comme mesure, mais ça peut être efficace dans certains, localement, si vous voulez, quoi.
Et les fameux bioplastiques, vous en pensez quoi, vous? Les premiers, on peut le rappeler, sont apparus dans les années 80, autrement appelés aussi les VG plastiques, je crois.
Ce qu'on appelle bioplastique, si c'est simplement des polyéthylènes qui sont faits à partir de plantes, donc c'est pas issu de la pétrochimie, mais par contre, ce sont les mêmes polyéthylènes. Un polyéthylène, c'est un polyéthylène, si vous voulez, donc ce sont les mêmes matériaux. Donc un bioplastique, ça peut avoir les mêmes problèmes, si vous voulez, que n'importe quel plastique. Par contre, si ce sont des produits qui sont biologiques et qui ont des propriétés plastiques et qu'on appelle des bioplastiques, à ce moment-là, ça peut être plus intéressant, sachant malgré tout qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés, ils sont pas aussi solides, ils sont pas aussi résistants et que donc les applications ne sont pas les mêmes. Vous imaginez bien qu'on peut utiliser par exemple des dérivés, enfin des molécules extraites des pommes de terre ou de différentes plantes pour faire des sacs, de l'amidon par exemple. Ça ira très bien dans le cas de produits sur les marchés. Par contre, ça n'ira pas dans les supermarchés où on porte des choses qui sont relativement lourdes et autres. Donc, selon les applications, c'est pour les emballages, hein, bien sûr. Eh bien, je pense que selon les différents types de bioplastiques, il peut y avoir un intérêt ou beaucoup moins.
Johnny Gasperi. Alors déjà, la question au niveau des rivières, en amont, en tout cas avant que ces plastiques n'arrivent jusqu'aux océans, et puis sur ces autres solutions possibles.
Je pense que la clé, c'est des mesures à la source et la pédagogie. La pédagogie sur nos jeunes générations, sur le respect, les non-incivilités qu'on peut voir, par exemple, en se baladant le long d'une rivière. Il faut imaginer, par exemple, une bouteille de plastique qui va être jetée sur une berge. Une bouteille de plastique d'un litre 5, par exemple, ça fait 35 grammes. Quand elle va se fragmenter, eh ben là, on va arriver à nos 10 000, 100 000 particules. Vous voyez ? Simplement, si vous ne jetez pas, certains le jettent et on peut vite arriver à, si ce n'est une bouteille ou deux bouteilles par habitant, à des quantités très importantes. Donc de la pédagogie, des mesures de réduction à la source, donc cette mesure de réduction, enfin d'arrêt de distribution de sacs plastiques, on ne peut que se féliciter et aller dans ce sens-là pour d'autres applications.
Et il faut rappeler que si ça prend du temps aussi, c'est tout simplement parce qu'il faut à la fois préparer les commerçants et les fabricants aussi à la transition. Alors, je vous propose d'écouter un dernier extrait du documentaire Océan, le mystère plastique, documentaire de Vincent Perazio. C'est plus du côté de la recherche pure. Peut-être qu'il y a là une solution.
Donc ici, on met des morceaux de plastique qui sont restés en mer pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, il y a eu des bactéries qui se sont développées à la surface du plastique et on va vérifier maintenant s'il y a des bactéries qui sont capables de dégrader le plastique. Alors la façon de le démontrer en fait, c'est de mettre ce morceau de plastique avec les bactéries dans un milieu minimum où il n'y a plus que du plastique à manger. Voilà, ce qu'on voit avec ces courbes, c'est qu'on a une diminution de l'oxygène, c'est-à-dire que les bactéries sont effectivement en train de manger le plastique puisqu'elles sont en train de consommer de l'oxygène.
Pour réagir, François Galgani, cet extrait du documentaire Océan, le mystère plastique, nous parle concrètement du développement de recherches sur des bactéries mangeuses de plastique. Est-ce que c'est là une solution d'avenir ?
Alors moi, je suis très enthousiaste pour ce type d'approche. Soit des nouveaux matériaux. Vous savez, on a donné 5 prix Nobel à des chimistes qui ont inventé des plastiques, différentes formes de plastique. On pourrait en donner à des chimistes qui inventeront des nouveaux matériaux qui sont plus conformes aux exigences environnementales. Et puis, effectivement, le traitement naturel, parce que les bactéries, c'est quand même, ce sont des êtres vivants. Et il faut savoir qu'il y a un article qui a été publié dans une très grande revue il y a quelques semaines simplement, qui a isolé maintenant une bactérie, on la connaît, qui commence à décrire un petit peu les mécanismes. Et on peut imaginer avoir des réacteurs à terme pour digérer les plastiques, temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire risque d'être longue. Dans le cas du pétrole, par exemple, l'utilisation des bactéries, ça existe. Il a fallu de très nombreuses années avant d'arriver, comment dire, à les isoler et les utiliser. Et c'est utilisable dans certains cas. C'est ce qui risque de se passer probablement pour le plastique. En fait, on ne le sait pas. Il y a peut-être plus de potentiel. Mais en tout cas, le principe même de résoudre le problème par des voies comme celle-ci, je pense que c'est excellent.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir en se disant « chouette, chouette, les sacs vont revenir et on va pouvoir en profiter parce qu'il y a des
absolument,
bactéries mangeuses de plastique. »
C'est ça, hein, le problème, ouais.
Johnny Gasperi, sur cette question.
En effet, la piste des bactéries qui vont être capables de dégrader le plastique est intéressante. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que ces bactéries, elles vont le dégrader. Dans le cas, on a longtemps cru que le plastique se dégradait. On parlait de plastique oxo-fragmentable, oxo-dégradable. En fait, ce n'était pas du tout de la dégradation. En fait, le plastique disparaissait dans nos mains. Mais ce n'était pas de la dégradation, c'était simplement de la fragmentation en tellement petites particules qu'on ne les voyait plus. On avait l'impression que ça se dégradait. Là, on parle vraiment de dégradation et c'est important de bien avoir ça en tête.
Bon, en tout cas, pour conclure cette première partie de l'émission, je rappelle cette phrase, justement, c'est un rapport de la Fondation Hélène MacArthur de cette année qui conclut en 2050. Si rien ne change, la masse de plastique dans l'océan sera supérieure à celle des océans. C'est vrai que là, ça laisse quand même rêveur et pensif. Alors, le temps est venu pour nous et pour vous de nous livrer la phrase ou la pensée qui symbolise votre engagement. Johnny Gasperi, on commence par vous.
Alors, c'est un exercice assez difficile d'essayer de résumer sa pensée ou sa philosophie en une phrase. Alors j'ai un petit peu sondé mes camarades de travail, et alors apparemment je dis souvent « tout ce qui est fait n'est plus à faire ». Ce qui est une phrase pour moi qui traduit un dynamisme, une volonté d'aller de l'avant, en disant « eh ben allons-y, construisons, faisons des actions, et en faisant tout ça, il y a une part de bonheur qui est derrière ».
François Galliani ? Votre phrase alors, à vous qui vous porte au quotidien.
C'est simplement un sentiment, en fait. Donc, je travaille souvent en mer et donc j'ai souvent le sentiment, comment dire, que la mer est infinie. Je trouve qu'elle est heureuse, donc elle est vivante, elle est heureuse. Et puis, elle porte l'avenir, donc il y a tout un ensemble de choses à faire, à découvrir et autres. Et donc, ça sera ma phrase, quoi.
Donc, la mer a quelque chose d'infini, d'heureux et d'avenir.
Absolument.
Merci à tous les deux. Et puis j'en profite, François Galgani, pour signaler un livre auquel vous avez participé, paru aux éditions Quae, Une mer propre, mission impossible. Et sinon, on renvoie aussi sur vos sites respectifs à tous les deux chercheurs. Je rappelle également le documentaire qui sera diffusé samedi prochain, le 17 septembre, sur Arte à 22h20, Océan, le mystère plastique, documentaire de Vincent Perazio et qui nous apprend beaucoup de choses, et notamment sur ces bactéries, peut-être une solution d'avenir. Mais restez avec nous, hein. C'est la suite de l'émission Les Échos de la Terre.
Eh ben, on est équipé d'une pince et on a un sac pour mettre le plastique et le verre.
Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Des bouteilles d'alcool, des canettes, des petits papiers, des mouchoirs, des seringues. Et je vois pas pourquoi les gens ils jettent pas à la poubelle, vu qu'il y a plein de poubelles à la plage. Alors.
Et c'est vrai, à la Grande Motte, tous les 100 mètres environ, des poubelles de tri sont installées sur la plage.
Le pire tout à l'heure, c'est quand j'ai cassé une bouteille.
Ouais.
Entre paillotes et boîtes de nuit qui font aussi la réputation festive de ces plages, les bouteilles d'alcool sont légion.
Vous avez rempli combien de sacs depuis 2 heures là ?
Le mien est presque plat, je vais aller le vider.
Des dizaines et des dizaines de kilos de déchets ramassés par des bénévoles qui ont exceptionnellement le droit de marcher sur les dunes, car on le rappelle, c'est interdit.
Voilà, tout à fait, on essaye d'enjamber, on ne piétine pas les plantes.
Et vous vous baladez sur la plage avec un escabeau ?
Pour passer les ganivelles et surtout pas les abîmer.
Seconde partie, les échos de la Terre et ce document sonore qui nous ramène au 12 avril 2015, l'an dernier, donc jour du nettoyage annuel des plages et dunes de la Grande Motte. C'était un reportage de Paul Ferrier de France Bleu Hérault et avec, bien évidemment, vous l'avez compris, des bénévoles. Bonjour Cécile Austria.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la Fondation Hulot, docteur en biologie végétale. Vous avez soutenu une thèse de doctorat sur la reconstitution des climats anciens dans les hautes Andes de Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, je tenais à le signaler. Et vous êtes entrée à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme qui s'appelait à l'époque Fondation Ushuaïa. C'était en 1992, hein, c'est ça. 10 ans plus tard, donc vous devenez directrice générale de la Fondation Hulot. Nous sommes à moins d'une semaine des Journées européennes du patrimoine et la Fondation Hulot, si j'ai bien compris, a depuis quelques années initié des Journées du patrimoine naturel avec l'opération J'agis pour mon patrimoine naturel.
Absolument.
En fait, c'est la première année qu'on a mis en place cette opération en proposant au ministère de la Culture, avec le soutien du ministère de l'Environnement, que les journées du patrimoine culturel soient culturelles, le patrimoine culturel et naturel. Donc on aimerait beaucoup que ça se pérennise, mais au-delà de ça, pour répondre à l'animation que sont ces journées du patrimoine, puisque l'idée c'est quand même d'aller découvrir autre chose, nous avons lié ce que nous faisons depuis 6 ans, c'est-à-dire mettre en avant le bénévolat nature, mettre en avant surtout les structures qui ont besoin de bénévoles sur le terrain pour rénover un espace naturel, nettoyer un espace naturel, observer des espèces pour que les scientifiques puissent avoir des données. Donc pendant ces journées du patrimoine, qui sont donc patrimoine culturel et naturel, j'agis pour mon patrimoine naturel, offre à tous ceux qui le souhaitent de s'inscrire sur une plateforme internet, de trouver près de chez eux plus ou voilà des actions très très différentes à faire en famille. On n'a pas besoin d'être professionnel, on a juste
des adultes aussi isolés ou en couple. Enfin, vous pouvez venir même avec des bandes d'amis. Et ce sont ces activités qui sont proposées sur le site dans toute la France. Il y en a 200. Et des rendez-vous aussi nature. Alors, c'est quoi ces rendez-vous?
Alors, pendant ces journées, les associations, il y a tous les grands réseaux naturalistes, mais aussi les collectivités territoriales mis en avant des actions qu'elles mènent régulièrement ou mis en place des actions spécifiques pour les journées. Et donc des rendez-vous, il peut y avoir des rendez-vous de découverte. Voilà, c'est une sortie nature. Et il faut aller voir sur le site parce que c'est partout différent. Et on n'aura pas la même proposition si on se retrouve en Île-de-France, dans les Alpes ou en bord de mer.
Et oui, j'ai relevé par exemple découverte des mésanges de l'île Saint-Denis ou des chauves-souris à Lézigny, visite de la zone humide du plateau d'Avron, chantier de préservation des prairies calquicoles de Mareille-sur-Mauldre dans les Yvelines, découverte des animaux à préserver dans la ferme pédagogique de la mairie du 9e arrondissement. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est très Paris-Île-de-France, mais autant de propositions très très variées à découvrir sur le site. Alors, on va tout de suite, si vous le voulez, prendre un petit peu la mesure de ce besoin aussi. Parce que, certes, ces journées sont prévues pour sensibiliser, faire découvrir, ça peut être ludique, mais dans certaines zones et dans certaines régions de France, il y a aussi presque un appel à l'aide. On va se tourner vers l'association Curuma, qui est en Gironde, pour une action très concrète, organisée donc le 17 septembre prochain au Verdon-sur-Mer. Bonjour Patrick Lapouillade.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de cette association Curuma, et là, très concrètement, dans votre secteur, il y a une opération de nettoyage d'un marais qui nécessite beaucoup d'aide parce que ce lieu peut, les prochaines intempéries, être en péril.
Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on est sur d'anciens marais maritimes qui habituellement sont sous l'eau. Même sur ces espaces-là, on est sur des zones de dépression humide qui sont régulièrement en fait inondées. Cet été, avec les conditions qu'on a, on se retrouve avec des zones qui sont de nouveau à sec. Et on est sur des espaces où le travail de l'association, c'est de restaurer effectivement ces zones de marais et d'y réinstaller des activités agricoles et notamment du pâturage.
Alors géographiquement, ça se situe où précisément, Verdon-sur-Mer ?
Alors le Verdon-sur-Mer, c'est une commune qui est tout à fait à la pointe de Grave, tout à fait au nord du Médoc. On est à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, voilà, en face de Royan. Pour ceux qui connaissent peut-être plus la ville touristique de Royan.
Et donc ce sont des marais anciens ?
Alors on est sur d'anciens marais maritimes, oui, qui datent pratiquement du XIIe siècle, puisque les premières traces remontent à peu près cette période. On est sur des grands ensembles qui font plusieurs centaines d'hectares, qui ont servi pendant de très très nombreuses années au développement de la saliculture, et qui ensuite ont connu une évolution de marais aquacoles, et qui ensuite sont passés par une phase, d'abandon à peu près dans les années 60-70. On est sur des espaces qui ont été visé pour un développement industriel ou portuaire. Ce développement industriel dans les années 60 n'a jamais véritablement abouti. Et à partir des années 80, on est sur des espaces qui ont été progressivement abandonnés.
Et rachetés par le grand port maritime de Bordeaux, hein, c'est ça?
Alors, propriété du grand port maritime de Bordeaux dans les années 60 pour développer ce projet industriel avec un terminal pétrolier qui verra le jour dans les années 70 et qui va disparaître à partir de la fin des années 80 au milieu des années 80. Et depuis cette période, on est avec un établissement portuaire qui, pendant de nombreuses années, s'est retrouvé un petit peu gestionnaire d'un espace naturel sans véritablement savoir comment le gérer ou quoi en faire. La difficulté, c'est que là où on avait avant une multitude d'opérateurs agricoles, aquaculteurs, éleveurs et puis pêcheurs, on s'est retrouvé dans les années fin des années 90 avec pratiquement plus personne en activité professionnelle sur ces espaces pour entretenir et maintenir ces zones humides fonctionnelles. Et par contre, une multiplication d'usages divers et variés. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, pendant une longue période effectivement d'abandon, on a des espaces qui ont servi de décharge pour certaines portions du marais. Et c'est le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. On est sur des espaces en fait qui ont été utilisés pour déverser des tonnes et des tonnes de verre qui remontent à la surface aujourd'hui, qu'on retrouve dans les argiles. Et sur les zones qui sont asséchées, on les retrouve effectivement affleurantes, ce qui pose des problèmes pour les animaux qui sont en pâturage sur ces espaces, et puis pour d'autres espèces d'ailleurs.
Et oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ces marais, alors déjà, ces marais ont une vraie raison d'être, hein, jouent un rôle naturel, ont une fonction, et quand ils sont mis à mal, ça bouleverse aussi l'écosystème. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a restauration dans ces milieux d'un élevage bovin. Et comme il a été réintroduit, les animaux peuvent ingurgiter ces morceaux de verre, ces débris, et être effectivement potentiellement ou malades ou pire, donc ce qui poserait problème pour l'éleveur.
Absolument, on est vraiment dans ce contexte-là. On a des secteurs qui ont été fortement impactés par par cette période d'abandon. En Médoc, on qualifie souvent les espaces milieux naturels comme les zones humides, hein, d'ailleurs, d'espaces d'intérêt. Hein. Effectivement, on regarde les fonctions qu'elles occupent. Elles nous servent, nous, au Vernon, par exemple, pour le marais du Conseiller. C'est notre vrai moyen de lutte contre le phénomène de submersion. On n'a pas de digue de protection le long de l'estuaire. On a 300 hectares d'anciens marais maritimes qui peuvent s'inonder au moment des grandes marées ou sur des périodes un peu importantes. Donc ça, c'est déjà un rôle extrêmement important. Et surtout, on est sur des espaces qui servent de réacteurs chimiques et qui retransforment de la matière. On est sur des zones d'épuration de bord d'estuaire qui sont fondamentales. La difficulté, c'est que comme on est sur des espaces qui ont été créés par de l'activité humaine, il faut restaurer ou maintenir de l'activité humaine, une activité compatible avec la biodiversité, pour qu'effectivement ces espaces-là continuent à rendre des services aux communautés humaines, continuent à être fonctionnels. Donc notre travail, nous, au niveau de l'association, c'est à la fois de restaurer ces espaces et puis de permettre effectivement un retour d'activité agricole, d'activité primaire, pour maintenir effectivement ces espaces dans leur fonctionnalité.
Et donc vous avez besoin de l'aide de ces bénévoles qui pourront d'ailleurs découvrir ce lieu qui est classé Natura 2000, hein, parce que la faune et la flore des marais est préservée et quand même assez formidable à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y faire quelques balades. Donc concrètement, Patrick Lapouillade, on donne rendez-vous aux bénévoles au chalet du CPIE, c'est-à-dire c'est ce label, un centre permanent d'initiative pour l'environnement, le CPIE Médoc, 15 bis route de Soulac, dès 9h samedi prochain.
C'est exactement ça, voilà, on essaiera de joindre l'utile à l'agréable, de faire découvrir des espaces et puis en même temps effectivement de bénéficier d'un sérieux coup de main parce que on s'épuise assez rapidement, on a déjà sorti quelques centaines de kilos de verre les uns après les autres, mais bon, à la fois les bénévoles et puis les salariés de la structure peuvent vite s'épuiser dans ce genre de tâches et puis c'est parce qu'il y a aussi un volet sympa à faire ça avec du monde et avec des bénévoles.
Et donc le chantier, faut préciser, hein, débutera à 9h30, devrait finir vers 12h30 par un pot et un pique-nique local, hein. C'est le côté convivial. Mais une fois que tout le monde aura bien déblayé et extrait ses débris, si possible. Merci à vous, Patrick Lapouillade, et puis on vous souhaite vraiment un beau succès par rapport à cette action. Cécile Austria, il y a donc ce genre d'activités proposées, c'est-à-dire soit des activités, comme on disait, ludiques, mais d'autres qui véritablement servent au-delà de la sensibilisation, de l'observation. Il faut aussi ramasser, aménager, protéger. Il y a tout ce rôle-là rempli par les bénévoles.
Absolument, il y a des chantiers par exemple qui proposent d'entretenir des prairies qui sont particulièrement intéressantes pour la flore, mais qui se voient envahies par des espèces qui empêchent les plantes les plus remarquables, disons, de survivre et qui sont souvent en danger. Il y a aussi en bord de mer, vous avez notamment à Marseille par exemple une association Planète Mer qui propose l'observation de la biodiversité littorale, mais à partir de protocoles qui sont établis avec des scientifiques. Donc ça permet aux bénévoles de découvrir la biodiversité, mais aussi de participer à la collecte d'informations pour les scientifiques. On n'a pas assez d'informations sur les espèces en France métropolitaine et en Outre-mer. Et les sciences participatives, ce qu'on appelle les sciences participatives...
Très développées notamment au Muséum d'Histoire Naturelle ces derniers temps, à Paris.
Bien sûr, sont très importantes. Et on a besoin de beaucoup de bénévoles pour ces observations, puisqu'il n'y a plus assez de naturalistes professionnels.
Donc des professionnels, des scientifiques et des bénévoles main dans la main. Allez, on va mentionner une autre activité, l'activité de ramassage de déchets qui aura lieu toujours samedi prochain, 17 septembre, sur une plage à la Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique. Une activité proposé dans le cadre des journées toujours J'agis pour mon patrimoine naturel par l'association Hirondelle. Et là aussi, ils ont besoin de vous pour ce ramassage. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations, Cécile Austria, sur le site www.jagispourlanature.org, le site donc sur lequel vous pouvez découvrir les activités proposées dans votre région. Et puis, on peut aussi dire que vous avez des parrains et des marraines prestigieux que l'on peut retrouver sous forme de petites vidéos aussi.
Absolument, donc on est soutenu par bien sûr toutes les associations, les grandes associations qui ont proposé, et puis les plus petites, des actions, mais nous avons aussi des parrains comme Angoun et Lissemoun qui ont fait des vidéos, et vous retrouverez celles de Alain Bouquin-Dubourg, le président de l'ALPO, et de Nicolas Hulot ce week-end aussi, qui explique comment venir aux associations, venir découvrir la nature et la biodiversité qui nous entoure et être utile.
Dans les vidéos, on retrouvera aussi des scientifiques, mais je vous propose d'écouter celle de Angoun.
Si vous aussi, vous voulez être utile à la nature, donc rendez-vous le 17 et le 18 septembre pour les journées de la patrimoine naturel. Et pour en savoir plus, allez sur jagispourlanature.org. Et puis je vous donne rendez-vous, à très bientôt.
Merci Cécile Austria. Et je précise que les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, y découvrir les plus, les moins de la semaine, d'autres nouvelles de l'écosphère, et comme notamment, pourquoi pas, la photo d'une création artistique de Léon Wildschut. Et puis nous suivre, bien sûr, sur Twitter, hashtag DCAE. Et la semaine prochaine, à l'occasion de la Journée internationale de la couche d'ozone, nous dresserons l'état de santé du trou de la couche d'ozone avec deux chercheurs, Didier Augustin et Sophie Gaudin. Merci de nous avoir suivis. Merci à la petite équipe qui m'accompagne, Catherine Donnet et Anaï Morales. Sans oublier Caroline Chausset de la documentation sonore de Radio France et Anne Gouzon de la documentation de Radio France, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs la revue de Web Environnement sur le site de l'émission. Et comme toujours, à la réalisation, Alexandra Malka, à la technique, Jean-Louis Deloncle, et à France Bleu Corse, à Bastia, c'était Jean-Michel Tombini. Et puis, ne quittez pas l'écoute, bien au contraire, dans un instant, à 17h, vous avez rendez-vous avec Rue des Écoles et Louise Touré.